Frères et sœurs, les amis, premier dimanche de l'Avent de cette année B, nouvelle année liturgique que nous allons vivre et traverser avec l'évangéliste saint Marc. Et une fois de plus, il nous faut accueillir ce qui est dit quelques versets avant ceux qui nous sont donnés d'entendre et d'accueillir en ce jour. Jésus, en effet, quelques versets auparavant, parle à ses disciples de ce qu'il appelle la venue du Fils de l'homme. Et il a ajouté, « Ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sinon le Père. » Et donc, Jésus en déduit pour ses disciples ce que nous venons d'entendre. Si lui, le Fils, comme il se nomme lui-même, ne connaît pas l'heure, ben évidemment, nous, encore moins. Ça, c'est le bon sens, inutile de revenir sur cela. Et il va ajouter, « Prenez garde, veillez, au sens de rester éveillé, bien sûr, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » J'essaye, moi, de comprendre dans tout cela que le Seigneur veut nous dire, faites attention de ne pas vous laisser surprendre, d'avoir une surprise. Et la suite du texte, à mon sens, va dans la bonne ligne. Vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, ou au chant du coq. Qu'est-ce que le chant du coq vient faire ici? On peut supposer que c'est une allusion au reniement de Pierre. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Hein? » Autrement dit, ou dit d'une autre manière, cette phrase peut être une mise en garde. Si vous n'êtes pas attentif au jour le jour, nous en avons déjà parlé, il peut vous arriver, même inconsciemment, de me renier sans y prendre garde. Alors, comme chaque temps liturgique de l'Avent, nous sommes invités à méditer sur l'attente. Nous avons déjà parlé du sommeil, lorsque nous avons entendu l'évangile des vierges sages et des vierges qui manquent de prudence. Le Seigneur ne les condamne pas d'avoir dormi, mais il y a deux manières de dormir. Il y a le sommeil qui va restituer notre corps et dont nous avons besoin, mais il y a aussi ceux qui dorment les yeux ouverts, c'est-à-dire qui sont dans la nonchalance, dans la négligence de ce qui se passe, autrement dit, dans l'indifférence. Alors, il y a plusieurs manières d'attendre, parce que veiller, c'est nourrir cette veille par une attitude d'attente. Oui, il y a plusieurs manières d'attendre. On peut attendre passivement, patiemment, comme par exemple attendre un train sur le quai de la gare, le train qui arrivera sans surprise puisqu'il est annoncé, même s'il a quelques secondes ou minutes de retard. Donc là, pas de problème. La bonne manière, c'est d'occuper le temps à autre chose, car nous pouvons être impatients. Et on sait très bien que notre impatience ne fera pas venir le train plus vite. Là aussi, c'est le bon sens. Mais il y a une très belle manière d'attendre, et vous imaginez bien laquelle, c'est celle de la maman qui attend un enfant. Non pas dans l'impatience et la fébrilité, mais la maman, elle a mille manières, on le sait que trop, de faire grandir au mieux celui qu'elle porte. Elle va veiller à sa nourriture, elle va veiller à son sommeil, elle va veiller à sa santé, elle va veiller à son hygiène de vie, elle va s'imposer un certain nombre de restrictions. Bref, la litanie est assez longue de tout ce que une maman peut faire, entre guillemets, comme sacrifice pour que la gestation du fruit qu'elle porte puisse préparer un bon accouchement et être dans la joie après l'épreuve. Alors, pourquoi ne prendrions-nous pas cet exemple? Du reste, saint Paul, vous connaissez bien ce verset, l'a bien exprimé de la manière suivante. La création tout entière gémit maintenant comme dans les douleurs de l'enfantement. L'Épître aux Romains au chapitre 8. Autrement dit, le projet de Dieu, vous savez que j'aime bien parler du projet de Dieu parce que Dieu a un projet sur nous, hein, puisqu'il attend notre coopération. Le projet de Dieu sur l'humanité, c'est du type d'une gestation auquel chacun d'entre nous peut contribuer à son enfantement. Voilà, il me semble, la bonne nouvelle extraordinaire qui nous sera répétée tout au long de ce temps de l'Avent. Nos vies, si petites, si modestes soient-elles, peuvent contribuer, et ça, il faut en avoir conscience, à la gestation de l'humanité nouvelle. C'est ce qui fait notre grandeur et, j'allais dire, notre noblesse. Et c'est peut-être bien l'une des raisons pour lesquelles personne, pas même le Fils, tant qu'il était parmi nous, ne connaît l'heure de l'avènement définitif du royaume. Autrement dit, nous avons une part, ça je vous le répète souvent, nous avons une part, et une part active à la construction de l'humanité nouvelle. C'est là le message le plus urgent que nous devrions nous transmettre les uns les autres, mais aussi transmettre à nos jeunes pour les nourrir d'espérance. Car nous n'avons pas à attendre l'avènement du royaume de Dieu comme on attend le train, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, mais que notre attente soit active. Alors on sait bien malheureusement que souvent nous restons passifs, ou pire, nous oublions que nous attendons quelque chose, ou bien que nous attendons quelqu'un. Alors on occupe notre temps à autre chose. Mais occuper notre temps à autre chose alors que il s'agit du royaume de Dieu, eh bien c'est quelque chose qui est quand même assez grave et assez important. Et c'est pour cela, tout simplement, que Jésus met en garde ses apôtres et il va prendre l'image de, si je me souviens bien du texte, de cet homme parti en voyage et qui a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Mais pour revenir au reniement de Pierre dont je faisais allusion au début de cette méditation, Jésus à Gethsémani avait dit aux trois apôtres qui l'accompagnaient « Veillez et priez afin de ne pas entrer au pouvoir de la tentation » et il avait ajouté « L'esprit est plein d'ardeur mais la chair est faible ». C'est une manière de dire à quel point nous sommes perpétuellement écartelés ou tiraillés entre les voileurs du royaume et le retour à l'égoïsme, à l'indifférence humaine et à la lâcheté. Cela peut nous aider à éclairer l'évangile de ce jour pour nous redire que veiller, c'est prier. Non pas prier le Père de réaliser son royaume à lui de manière égoïste ou égocentrique, tout seul, sans nous. Ce n'est pas ça le projet de Dieu sur l'humanité, mais prier pour être rempli de l'Esprit de Dieu et désormais regarder le monde qui est la matière première du royaume avec les yeux du Seigneur. Alors, pouvoir agir dans le sens du royaume, demandez et on vous donnera, cherchez vous trouverez. Oui. Du coup, j'espère que cela est clair pour chacun de vos cœurs. En quoi consiste la tentation ? Veillez et priez afin de ne pas entrer au pouvoir de la tentation, dit Jésus dans le texte d'aujourd'hui. Il s'est comparé donc à ce maître de maison qui a laissé sa maison et l'a confié à ses serviteurs l'autorité et à chacun sa tâche et il a donné au portier l'ordre de veiller. Donc, La tentation, c'est d'abord, à mon sens, de s'en fiche. C'est-à-dire de négliger la maison. Bon, il se passera ce qui se passera, et peu importe. Or, c'est pas ça. Hein? Veiller sur la maison, c'est notre mission. Et dans le mot mission, c'est un mot actif. Il y a de quoi faire. Et comme nous le dit saint Marc, faire grandir le royaume, comme nous l'avons rappelé dimanche dernier, dans lequel chacun est roi, vous vous souvenez, eh bien, ce n'est évidemment pas le moment de dormir, parce que nous avons cette responsabilité, je l'ai rappelé dimanche dernier, responsabilité qui est celle engendrée par notre baptême. Nous participons à cette triple royauté de prêtre, prophète et roi. Voilà notre mission, voilà la mission de l'Église, témoigner par mes actes de l'existence ici et maintenant du royaume de Dieu. Amen.